les élucubrations d'Hermeline sur Radio U 101.1 FM.
C'est dimanche, il est 21h à Brest, vous êtes à l'écoute de Radio U sur 101.1 FM. Chers auditeurs, bonsoir. C'est l'heure des élucubrations d'Hermeline, et vous, quel est votre souvenir vintage? Un dimanche sur deux sur Radio U 101.1 FM. N'hésitez pas à appeler le standard de Radio U au 02 98 03 82 61 si vous voulez passer à l'antenne. Ce soir, l'élucubration parle de ruptures existentielles avec Philippe Lemoine, que je vais tout de suite appeler, chers auditeurs, restez en ligne, j'en profite. Pour vous passer la bande-son du souvenir vintage de ce soir, George Michael et Elton John, « Don't let the sun go down on me ». Philippe Lemoine. Philippe.
Bonsoir.
Bonsoir Philippe, tu m'entends, tout va bien. Cette fois-ci, la technique fonctionne bien. Alors, le souvenir vintage des élucubrations de ce soir, sur le thème des ruptures existentielles, est placé sous le signe de George Michael. Alors, un petit, le saviez-vous pour commencer, George Michael avait 24 ans à l'époque, comme moi, plus ou moins d'ailleurs. Face, alors à l'époque de Face, de son grand succès, Face l'a catapulté au rang de superstar mondial et depuis, il est le seul artiste britannique solo à avoir décroché 4 singles numéro 1 aux States avec Face. Face, c'est aussi la chanson qui détrône Wham. Alors, c'est dingue quand on y pense. George Michael n'a jamais appris à jouer de la musique. Il savait juste où se situait le do sur sa guitare. Comme quoi, on n'est pas à l'abri d'un succès en partant de pas grand-chose. Un peu comme nous, Philippe. On débutait dans la vie. Alors, on va y revenir, comment on s'est connus. Aujourd'hui, bon, je propose que tu te présentes pour commencer. Donc aujourd'hui, tu es thérapeute du deuil, ancien aumônier d'hôpital. Tu accompagnes le deuil au sens large, les situations, les personnes, les deuils de personnes et de situations. Tu accompagnes les gens dans leur transition de vie. Et donc ça tombe bien puisque c'est de ça que l'on va élucubrer ce soir. N'est-ce pas Philippe ?
Oui, merci pour l'invitation. Et bon, je ne suis pas que ça, hein, c'est mon identité professionnelle, c'est ce que je fais dans mon travail, mais ça a changé par rapport à l'époque où on s'est connus. C'était en quelle année déjà ?
Eh bien, c'était au début des années 90. Alors, dans une précédente élucubration, j'avais invité John, qui était mon boss à Promogolf Paris, Et après Paris, j'ai eu l'opportunité de poursuivre à Cannes avec toi. Donc, je pense que c'était dans les années... En 1992, à mon avis. On travaillait donc dans l'événementiel sportif, dans le golf. On organisait des tournois amateurs en PACA. C'était une époque assez vintage, vintage flamboyante. Une époque de paillettes, de champagne, de luxe, de yachts et de palaces, de people et de paparazzi. Et un matin... Moi, je me suis réveillée complètement étourdie par ce monde fastueux. Et je me souviens très bien avoir pensé que si je restais là, dans cet univers complètement illimité, qui me dépassait, quand je me suis retrouvée à Cannes, ça me dépassait complètement. Je me suis dit que j'allais terminer dans le lobby du Negresco ou du Majestic. Et ce matin-là, je suis arrivée au bureau et sans préavis, comme ça, de but en blanc, j'ai démissionné. Alors, tu t'en souviens de ça, la manière dont ça s'est passé aussi brusquement ou...
Et donc... Je m'en souviens
parfaitement.
Je te vois encore en face de moi et je me vois recevoir la secousse de cette annonce de la démission qui a été un peu brutale sur le coup parce que on collaborait bien et on faisait du bon travail ensemble. Mais j'ai respecté ton choix.
Mais j'y ai pensé tout à l'heure en venant dans la voiture, parce que je me suis dit quand même, c'est incroyable. C'est vraiment ce qui s'est passé. Je me suis réveillée ce matin-là et je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas rester à Cannes. Je peux pas rester dans ce monde hyper luxueux, invité de partout, tout le temps, dans les soirées les plus chics, dans tous les palaces. Et je me souviens aussi quand j'étais arrivée avec ma petite Rover, avec un petit toit ouvrant. J'avais une valise avec quelques vêtements, quelques CD de Bob Dylan et de Patti Smith. Et David Bowie, évidemment. J'avais le panda que m'avait offert mon parrain pour mes 18 ans, je crois, sur le siège passager. Et tu m'avais trouvé un studio à Mougins. Donc j'arrivais à l'aventure, hein, tu m'avais trouvé ce studio-là, j'y suis restée. Et peu de temps après, j'ai eu un accident de voiture, le seul de ma vie d'ailleurs, enfin je touche du bois, mais j'ai eu un accident de voiture assez grave. Et tu venais, donc j'avais plus de voiture au bout de 3 jours, je crois à peine, j'étais à Cannes, j'avais déjà plus de voiture. Et tu venais me chercher tous les matins à Mougins, tu me déposais au bureau, tu me raccompagnais le soir. Et j'ai été un peu ingrate, quoi. Donc, pardon déjà. C'est l'occasion de pardonner.
J'ai accompagné le changement, en fait, parce que c'était une transition de vie pour toi et c'était important.
Moi, j'avais une vingtaine d'années, toi, peut-être un peu plus.
92, j'avais 28.
Ouais. Moi, je devais avoir 20, comme George Michael, peut-être 24, 22 ou 24, je ne sais pas. Ouais. Et pour moi, ça a été une transition. Alors, est-ce que tu veux te présenter pour commencer ou tu accompagnes les gens ? Concrètement, ça veut dire quoi ? Donc, au milieu d'hôpital, ça signifie quoi ? Tu accompagnes les gens, ça signifie quoi ?
Ouais. En fait, j'ai fait une reconversion professionnelle. Moi, j'ai continué 12 ans après toi, après ton départ, parce que toi, tu es parti en 92 et moi, j'ai
liquidé je suis partie
cette
en...
société en 2004.
Ah ouais, je suis partie en 1994 ou 95.
Ah voilà, ok. J'ai plus trop la mémoire des dates, mais ce dont je me souviens, en revanche, c'est que la liquidation de la société, c'était en 2005 exactement. Et parce que moi, j'ai eu aussi ma prise de conscience et mon changement de vie, mais 10 ans après toi. Et en fait, c'est ça qui a fait que j'ai pris du recul, j'ai pris un temps sabbatique et j'ai réfléchi un peu à mes aspirations, à ce qui m'animait. Je n'étais pas à ma place, je n'étais pas accompli, je n'étais pas en paix, je n'étais pas heureux.
Tu as ressenti ça sur le moment ? Parce que moi, je l'ai ressenti il y a quelques années seulement en écrivant ma vie. En fait, je l'ai ressenti à ce moment-là, mais je n'avais pas compris, moi, que je n'étais pas à ma place. Je sentais que c'était trop luxueux pour moi. C'était démesuré. Pas luxueux forcément, mais démesuré. Toi, tu as senti que tu n'étais pas à la bonne place.
Je le vivais aussi un peu dans mon corps parce que j'étais très, très stressé. J'étais gérant de cette société, donc j'avais beaucoup de responsabilités. Et je recevais beaucoup de stress. Et puis, j'étais jeune. Donc, je me mettais la barre haut aussi dans le fait de gagner ma vie pour subvenir aux besoins de ma famille naissante, de mon épouse et de mon fils.
Tu étais jeune marié, tu avais un petit... Moi, quand je suis arrivée, tu avais un fils qui venait de naître ou c'était un bébé ou un tout petit garçon ?
Oui, il est né en 90 et moi, en 90, j'avais 26 ans. Donc, je me suis mis dans cette posture-là de chef de famille et j'ai cravaché, quoi. Mais c'était pas vraiment mon costume, ce métier d'événementiel, de communication, de sponsoring dans le golf. J'ai assumé ça à la suite de mon père, mais j'étais pas complètement accompli dans cette mission-là. Et c'est en fait un travail sur moi après, parce que j'ai eu des difficultés. En fait, il y a eu un effondrement, quoi. Il y a eu une crise et une chute assez monumentale, où j'ai tout remis en question et où j'ai commencé à essayer de me connaître un peu mieux, pour voir à quoi j'aspirais profondément. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas épanoui dans ce travail.
Et alors, donc, tu as fait. On en avait parlé à l'époque. Parce que, enfin, on s'est reparlé 30 ans plus tard, finalement. On a laissé passer 30 ans. Et puis, je suis revenue à Cannes pour présenter un scénario de film, enfin, un projet de scénario au Festival du Cannes, où mon projet avait été sélectionné. Et je t'ai appelée à ce moment-là. Et c'est là que j'ai appris donc, que tu étais aumônier d'hôpital et thérapeute du deuil, que tu accompagnais les gens. Mais. On n'en a pas discuté plus que ça. Donc finalement, tu es passé un peu de la lumière à quelque chose d'un peu plus sombre. Enfin, je ne me rends pas compte, hein, mais je ne sais pas en quoi ça consiste, aumônier d'hôpital ou thérapeute du deuil.
En fait, je suis passé d'une posture de leader, de directeur, de responsable, à une posture d'écoutant et d'accompagnant, plutôt au service de l'autre. Ce qui me manquait dans ce travail, c'était la relation humaine. En fait, c'était très axé sur le profit, la performance, la vente, et ça manquait d'humanité, de profondeur, d'authenticité.
D'authenticité, oui. Parce que...
Voilà. Et par rapport à la personne que je suis, ça ne pouvait pas me convenir. Donc, j'ai fait un travail sur moi, une psychothérapie... où j'ai commencé à répondre à des questions qu'on m'avait jamais posées, mais comme qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui vous anime, Et je me suis rendu compte que j'ai travaillé sur mes valeurs. Je suis touché parce que la radio où on est, elle s'adresse à des jeunes et à des étudiants, des universitaires.
Oui.
Et je me dis que ce sont des questions qu'on se pose aussi dans cette tranche d'âge. Moi, j'aime beaucoup parler aux jeunes et je suis entouré de jeunes aussi, encore aujourd'hui. Et bah, c'est des questions importantes. Voilà, le travail, à quoi on aspire, une vocation, qu'est-ce qui nous attire, les études, pas d'études, travailler.
Justement, quand je suis venue il y a 2 jours faire quelques tests techniques, et il y avait une jeune fille en service civique à la radio, et on a discuté. Et c'est précisément de ça qu'on a, sans savoir que c'était le thème de mon émission, on a commencé à parler de ça parce que elle se réoriente à partir de la rentrée. Et donc je lui ai dit que le thème de l'émission, c'était les ruptures existentielles, et elle se cherche, quoi, elle a l'âge qu'on avait à l'époque où on travaillait ensemble. Et à l'époque, quand même, c'est incroyable parce que donc j'écoutais George Michael, qui était très à la mode à cette époque-là, sans complètement comprendre les paroles de ses chansons. Et la chanson que j'ai passée, que j'écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps encore aujourd'hui, c'est vraiment, enfin, il y a quelques paroles que j'ai envie de citer, mais tout perdre, c'est comme si le soleil se couchait sur moi. Ne laisse pas le soleil se coucher sur moi. Même si je me cherche, c'est toujours quelqu'un d'autre que je vois. Je permettrai juste un fragment de ta vie pour errer librement. Mais tout perdre, c'est comme si le soleil se couchait sur moi. C'est vraiment pile poil parce que c'était Cannes en plus, un soleil éblouissant. Et tout d'un coup, ça suffit pas, quoi.
Ça suffit pas, ouais. Quand tu dis ça, ça me fait penser à tout perdre et se chercher soi-même. J'ai entendu quand il dit ça, George Michael, là, j'avais pas entendu cette chanson depuis longtemps. Ça me fait penser au masque. J'avais lu un bouquin à l'époque sur apprivoiser son ombre. Les masques aussi qu'on peut porter dans la société pour trouver une place et qui peuvent faire que ben, on n'est pas vraiment soi-même en fait. On n'est pas aligné, pour reprendre un mot, un verbe qui est. On n'est pas en
Contemporain, ouais.
cohérence avec ses valeurs et on porte un masque ou plusieurs masques.
Alors, je me suis posé les mêmes questions que toi, et moi j'ai trouvé des réponses dans les livres, et notamment, alors précisément sur cette histoire de masque, dans les livres d'Erving Goffman, qui parle de ça dans La mise en scène de la vie quotidienne. Et aussi, moi j'ai trouvé des réponses exactement à ça, à la connaissance de soi, à travers la spiritualité. Alors, toi aussi, tu as trouvé à travers la spiritualité, mais moi, c'est plutôt l'ésotérisme, le spiritisme. Alors, la religion aussi, j'ai un peu testé, et notamment les saints et les saintes, et Sainte Rita, moi, pour ma part. Mais toi, tu as carrément réalisé une confirmation. Toi, tu es rentré à fond dans la religion pour trouver ta place.
Je suis un recommençant, comme on dit. C'est-à-dire que, bon, déjà, je m'appelle le moine. Donc,
Ah oui, j'avais jamais fait le rapprochement, oui, en effet.
donc déjà,
Très
dans
bien.
ma quête de soi, à un moment, je me suis dit, bon, je suis né où? Comment je m'appelle? Et puis, il s'est trouvé que je me suis rendu compte que j'avais été baptisé, mais je n'avais pas fait ma confirmation. Et bon, ça a été important dans mon cheminement. Parce que j'étais tellement perdu que je cherchais la vérité et ce qui était juste pour moi. Et j'ai pris beaucoup de fausses routes en fait. Et c'est pas évident de trouver dans ces âges-là, 30-40 ans, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est vrai pour soi. Et au cœur de cette quête-là, j'ai eu un appel, en fait, j'ai vécu ce qu'on appelle une conversion. Bon, il y a de plus en plus d'adultes qui vivent ça. Cette année, il y a eu 21 000 baptêmes là, d'adultes. C'est en grande augmentation. Et ça a fait que j'ai voulu approfondir aussi ma foi et la dimension spirituelle de la vie et de ma personne.
Alors, j'ai bien envie de ponctuer ce que tu viens de dire avec une citation de Eti Ilsoum. Je ne sais jamais exactement comment prononcer son nom, Ilsoum. H-I-2-L-E-S-U-M. Je dirais après qui c'est, mais elle a publié un petit ouvrage, enfin, les éditions Point ont publié un ouvrage qui s'appelle Faire la paix avec soi, 365 méditations quotidiennes. Et comme on est le 19 avril aujourd'hui, elle en a écrit une en date du 19 avril qui s'appelle S'en remettre à Dieu sans condition. Je devrais m'en remettre à toi de beaucoup de choses, mon Dieu, et cesser de te poser des conditions. Si je reste en bonne santé, alors. Même si je ne suis pas en bonne santé, cela n'empêche pas la vie de continuer et d'être toujours la meilleure possible. Alors, Etty Hillesum, elle a écrit un journal de 1941 à 1943 à Amsterdam. Elle est connue pour ça. C'était une jeune femme juive de 27 ans qui a tenu ce journal. Et donc, c'est un document incroyable par son acuité littéraire, intellectuelle et sa foi indéfectible en l'homme, alors qu'elle vivait en temps réel les plus noirs méfaits que l'homme accomplissait. Et donc, elle est morte à Auschwitz le 30 novembre 1943. Elle est passionnante à lire, parce qu'elle est vraiment très positive, hyper optimiste, toujours, 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 quel que soit ce qui se passe. Alors, comme je le disais, toi, c'est la foi qui t'a saisi, happé, quoi. Et est-ce que c'est ça aujourd'hui que tu accompagnes à travers la foi, les gens que tu accompagnes dans le deuil existentiel ou situationnel ou personnel?
Déjà, merci de citer Etty Hillesum, parce que je l'aime beaucoup. J'invite les auditeurs à lire les références que tu as données, et aussi un petit livre qui s'appelle Une vie bouleversée.
Oui, voilà, c'est son journal, ouais.
Qui est une pépite. Et qui m'a aussi beaucoup marqué dans mes lectures. Et bon, c'est vrai que au moment d'hôpital, j'ai exercé cette fonction là pendant 4 ans, et j'ai travaillé beaucoup autour de la mort. Mais l'accompagnement du deuil, c'est venu avant, parce que j'ai travaillé sur mes propres deuils. Et puis j'ai eu le goût de retourner faire des études. Je suis allé à la faculté à Amiens pour préparer une formation universitaire sur l'accompagnement du deuil. Et au sens large, bon, la perte d'être cher, mais aussi les changements de situation de vie, les ruptures, les transitions, le chômage, les séparations affectives. Tout ce qui fait qu'à un moment, il y a une perte et il s'agit de consentir à cette perte et de se reconstruire autrement.
Alors j'ai également, comme je suis vraiment moi dans la spiritualité, j'ai une amie très proche qui m'a envoyé il y a plusieurs années, ça m'a aussi beaucoup aidé, un livre sur la spiritualité, parce que je réfléchissais à ce mot spiritualité, parce que à chaque fois que j'en parlais, on me renvoyait systématiquement à la religion. Or, ce n'est pas que ça. C'est finalement tout simplement trouver un sens à la vie humaine et un moyen de la diriger. Et dans ce petit livre, une très brève introduction à la spiritualité de Philippe Sheldrack chez Almora Éditions. Bon, j'apprends d'abord que la spiritualité est un concept, que le mot spiritualité est apparu dans le christianisme, du latin spiritualis, grec pneumatikos, et ça concerne finalement ce qui est holistique, ce qui correspond à une approche globale et unifiée de la vie. Le tout, une vie unifiée, donc une quête de sens évidemment, et une recherche de son identité et de sa personnalité, au service de son épanouissement. Est-ce que c'est ça, finalement, que tu accompagnes auprès des gens qui sont en rupture?
J'essaie d'être à l'écoute du souffle de vie qui anime la personne qui me fait confiance en venant me voir ou que j'accompagne. Je fais aussi beaucoup d'accompagnement par téléphone. Et bon, en général, une personne qui demande de l'aide, c'est une personne qui est en questionnement et qui se remet en question, qui ne va pas toujours très bien. Et où est la vie dans cette personne? Et justement, tu parles de l'esprit. Bon, moi, je suis chrétien, donc l'esprit, c'est une référence à l'Esprit Saint, en fait. Et l'Esprit Saint, c'est un souffle qui est au-dedans de chacun de nous. Et donc, l'Esprit Saint, c'est la vie, c'est l'âme, c'est le cœur. Donc, j'ai cette confiance aussi que c'est toujours là, dans la personne, et que c'est ça qu'il faut accompagner, espérer que la personne se reconnecte à cet élan de vie qu'elle a en elle.
Ok.
Et voilà, bon, est-ce que je réponds à ta question? C'est le sens que je donne à
Eh bien,
mon métier d'écoutant.
tu réponds à ma question. Ce qui serait super, c'est que les auditeurs qui nous écoutent n'hésitent pas à composer le 02 98 03 82 61 pour témoigner de leurs ruptures existentielles ce soir, éventuellement te demander un accompagnement ou que tu leur les conseilles. Et en attendant, on va faire, en espérant que certains auditeurs veuillent bien nous appeler, on va reprendre notre discussion, Philippe, et on va faire une petite pause musicale avec Étienne Dao, Appeléiel, qui chante Ouverture. Et alors ce titre, je l'ai beaucoup écouté également, après Cannes, donc après avoir démissionné. Je me suis retrouvée, je suis remontée à Paris, comme on dit. Bon, ça m'a bouleversée. Parce que alors là, pour le coup, je passais vraiment de ce milieu illimité, démesuré, tellement facile et tellement fantaisiste aussi, et avec ces gens partout autour de moi, ces yachts, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les paparazzis, le festival de Cannes. Et je me suis retrouvée tout d'un coup chez mes parents que j'avais quittés 3 ans auparavant. Bon, ça a été un peu le coup de massue. Je me suis retrouvée à la NPE pendant quelques temps. Et je me suis ressentie fantomatique et perdue, exactement comme Raphaël Duval, qui était interprété par Marc-André Grondin dans le film de Rémy Besançon, Le premier jour du reste de ta vie. Avec cette bande-son tellement folle que je continue d'adorer, Étienne Dao, Ouverture. Et on reprend après notre conversation, cher Philippe.
Il est des rendez-vous, pas de coïncidence. Aller vers son destin, l'amour au creux des mains, la démarche paisible. Porter au fond de soi l'intuition qui flamboie, l'aventure belle et pure. Celle qui nous révèle, superbe et enfantin, au plus profond de l'âme. Portée par l'allégresse et la douceur de vivre, de l'été qui commence. La rumeur de Paris, comme une symphonie. Comme la mer qui balance, j'arrive au rendez-vous dans l'épaisse fumée. Le monde me bouscule, réfugié dans un coin et observant de loin la foule qui ondule. Mais le choc sans prévenir arrive. Je m'avance et je vois que tu viens comme moi d'une planète invisible où la pudeur du cœur impose le respect, la confiance sereine. plus je m'aperçois que lentement je m'ouvre. Et plus je m'ouvre à toi, et plus je m'aperçois que lentement tu t'ouvres. Il fut le chemin et les pièges nombreux avant que l'on se trouve. Les mirages nombreux avant que l'on se trouve. Ce n'est pas le hasard, c'est notre rendez-vous, pas une coïncidence.
Alors, cher Philippe, tu es toujours en ligne ?
Oui.
Alors, comme dirait le Louche et comme le chante Étienne Dao, hasard, coïncidence, notre rendez-vous, est-ce qu'on a une route qui nous est destinée, ou est-ce que, comment ça se passe en fait, ces rencontres, ces transitions de vie? Est-ce que je veux dire, on ne peut pas ne pas les vivre? C'est ça ma question.
Enfin, alors moi, je vais.
Je sais pas si c'est
je vais répondre à partir de ma petite personne, mais chacun pourrait répondre différemment à cette question. Moi, je ne crois pas. Alors, dans ma foi aussi, je ne crois pas à la prédestination. C'est-à-dire que ma vie, elle n'est pas écrite. Le Dieu en quel je crois, alors pour moi, c'est le Christ, mais pour d'autres, ça peut être. Un autre mot, l'univers, il me veut libre. Et donc, il n'a rien écrit à l'avance. Il sait ce qui est bon pour moi. Il sait là où je serai le plus accompli, le plus heureux. Mais il ne décide pas à ma place. Et d'où la difficulté aussi de faire ce travail. D'approfondissement, de quête de soi, de la vérité de qui on est. Je dis souvent que j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais le plus long voyage que j'ai fait, c'est celui de ma tête à mon cœur.
C'est poétique, ça.
C'est parce que tu mets de Étienne Dao, donc ça m'inspire. Mais voilà, donc je pense aux jeunes peut-être qui nous écoutent. Et je suis admiratif parce que c'est pas évident à 18-20 ans de choisir une voie, ou même un peu plus, d'être sûr que c'est la bonne, de s'engager dans des études, ou de sentir que... Bah, on a plus le goût de travailler et de ne pas forcément faire de longues études, ce qui a été mon cas. Moi, j'ai commencé à travailler assez tôt.
Oui, moi aussi.
Et j'ai repris des études à 40 ans, un peu plus. Et donc, comment être sûr ? C'est un peu la question que tu poses. Ces transitions, est-ce qu'elles sont...
inévitables ?
Elles arrivent nécessairement. Mmh. Je pense que oui. On a tous des chemins de chute et de relèvement.
Mais donc, si tu dis que, si tu penses qu'elles arrivent nécessairement, ça veut dire que quelque part, c'est écrit quand même. Enfin, moi, j'y crois à ça. Moi, je crois qu'on a un chemin qui est tracé, que ces ruptures, donc, elles arrivent pour nous faire comprendre qu'on se fourvoie, qu'on s'égare, que c'est pas la bonne direction. Et donc, je l'ai constaté à plusieurs, dans plusieurs domaines de ma vie. Par exemple, mon arménité, qui est un gros tourment existentiel, mon identité arménienne, mes origines arméniennes. Vu que je n'ai pas été élevée dans cette culture, pendant longtemps, ça ne m'a pas du tout préoccupée. Je ne m'en suis pas souciée. On n'en parlait jamais, je faisais pas, on n'était pas dans la famille, on n'était pas dans une dynamique communautaire. Mon père a épousé une Bretonne. Je ne me suis pas rendu compte que j'étais d'origine arménienne. Et en écrivant mon premier roman, en 2005, il y a 20 ans, qui n'avait rien à voir, c'était sur le sujet, c'était un avortement, eh bien, des camarades de collège m'ont retrouvé. Et en me posant une question de fil en aiguille, ils ont amené eux-mêmes cette arménité. Et depuis, que je trouve très encombrante, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, et je ne sais pas vraiment ce que ça signifie, parce que plein de personnes m'ont dit « Mais c'est quoi être d'origine arménienne ? Arménienne de troisième génération, ça veut dire quoi ? Comment tu le ressens ?» Eh bien, j'en sais rien. Et c'est un pas en avant, trois en arrière. Mais j'ai remarqué que je me lance dans une direction, j'essaie d'écarter ce sujet-là, ça revient systématiquement. Et chaque rupture me ramène à ça systématiquement. C'est pour ça que je ne crois pas trop au libre arbitre et je ne crois pas trop qu'on ait le choix des chemins, en vérité. Donc toi, tu penses le contraire.
Oui. Ah, tu disais, il me semble, si j'ai bien entendu, tu disais hasard ou providence. Tu as dit ça tout à l'heure, non ?
J'ai dit hasard, comme le titre de Lelouch et ce que chante Dao, hasard, coïncidence ?
Ouais. Et toi, tu dis quoi alors par rapport à ça ?
Moi, je dis qu'il n'y a pas de hasard. Mmh. En revanche, il y a plein de coïncidences. Plein de synchronicités, plein de coïncidences. Plein de signes. Pour nous guider.
Oui. Oui, j'entends. Et où est la source, en fait ? Où peut être la source de ce qui anime ça ? Ces signes, ces coïncidences, ces synchronicités.
Tu veux dire quelle sorte
derrière, en fait ?
Ah bah, la connaissance de soi. In fine, ça reste la connaissance de soi. Donc, moi, c'est la démarche d'écriture qui a commencé à m'inviter à me poser ces questions-là. Qui j'étais, en fait, tout simplement. Qui j'étais. Pourquoi le travailler dans l'événementiel sportif et dans le golf, pourquoi ça ne m'a pas convenu ? Pourquoi tout d'un coup j'ai claqué la porte alors que j'avais une vie idyllique ? Je n'ai rien à reprocher à cette vie-là, sinon qu'elle était d'ailleurs trop idyllique. Après, j'ai travaillé au sein du groupe La Poste pendant une vingtaine d'années. J'étais directrice de la communication de plusieurs entités et auditrice. Alors ça, je savais que ça ne me convenait pas. J'étais très bonne, très à l'aise, enfin, ça se passait bien. Enfin, très bonne, ça s'est bien passé, je suis restée 20 ans. Mais dès le deuxième... Alors ça, je me souviens très bien, par exemple, dès que je suis rentrée au siège du groupe La Poste, j'avais écrit le lendemain, un peu comme ça s'est passé avec toi, parce que je suis assez impulsive quand même, j'avais écrit, 3 jours plus tard, j'avais écrit ma lettre de démission, que j'avais envoyée donc au grand directeur de la communication de l'époque, du groupe, qui m'appelle et qui me dit « Isabelle, la patience est une vertu révolutionnaire. » Bon, ça, je l'ai bien éprouvé, j'y suis restée 20 ans. Mais le jour où j'ai quitté, j'étais tellement soulagée. Tout ça pour me reconcentrer à l'écriture. Enfin, j'essaie, quoi, mais...
Tu as été sûre que c'était le bon chemin pour toi ? C'était juste pour toi ?
Parce que seule l'écriture m'a permis de me trouver, d'être à l'aise avec moi, d'être en paix avec moi-même, quoi. De ne pas avoir de troubles corporels, le ventre noué ou je ne sais pas, de décrocher lorsqu'il y a des conversations au bureau, par exemple. J'ai jamais été discuter avec mes collègues à la machine à café, j'ai jamais mangé à la cantine une seule fois. J'étais tellement mal, ça ne m'intéressait pas, quoi, ces conversations de « qu'est-ce que t'as fait ce week-end ?» Et ça, donc, du coup, je savais que c'était pas un univers qui me convenait. En revanche, comme j'aime bosser, et que j'avais beaucoup de travail, c'est ça qui m'a tenue. C'est le fait, et en plus... dire comme à la poste est quand même un job où il y a beaucoup de situations de crise, de conflits, beaucoup travailler dans l'urgence. Et ça, pour moi, c'est génial parce que J'ai pas besoin de quand je travaille dans l'urgence, je ne réfléchis pas, j'y vais quoi. C'est ça qu'il me faut. Mmh. Ouais. Mais je savais que c'était pas du tout mon univers, et donc je suis partie aussi de manière impulsive, de la même manière, au bout de 17 ans, mais j'en pouvais plus quoi. Je suis restée 17 ans, c'est long.
Et tu as dit, seule l'écriture m'a apporté la paix.
M'a apporté la paix. Trouve... J'ai l'impression de poser mon cerveau et je ne pense plus à... Il n'y a aucune pensée périphérique, de méta-pensée, de je ne sais pas quoi. Je suis bien.
Voilà, ben quand je t'entends dire ça, ça me fait penser au critère de discernement. J'aime beaucoup ce mot de discernement, discerner. Parfois entre des options, bon, quand s'il y en a une bonne et une mauvaise, c'est facile, mais quand il y en a deux qui sont bonnes, enfin, ou qui sont pas mauvaises, comment je discerne et comment je fais mon choix? Et dans les critères, c'est ce que tu dis, c'est il y a un critère qui est important, c'est la paix qui dure et la joie. Voilà. Qu'est-ce qui me met dans une situation où je me sens en paix, quoi, serein, accompli, joyeux. On parlait de spiritualité. Le spirituel, on met le mot qu'on veut là-dessus, chacun dans le respect de ses croyances, mais c'est pour le bonheur. Moi, je sais que le bon Dieu, il me veut heureux et très heureux.
Mais justement, quand je... Donc moi, je suis rentrée en spiritualité donc par le biais de l'écriture. En fait, j'écrivais sur un infanticide, je bloquais enfin, je cherchais désespérément à lire le dossier de police judiciaire de cet infanticide, que finalement j'ai pu lire. Mais avant de pouvoir le lire, ça a pris beaucoup de temps. Et je suis allée voir une voyante et quelqu'un en écriture automatique et en psychophanie, qui m'ont révélé des choses. Et notamment, et qui m'ont révélé des éléments factuels, qu'ensuite il a fallu que je recoupe, et qui m'ont également révélé des choses sur ce qui allait m'arriver à moi, et notamment, la voyante que je suis allée voir m'avait dit « Remettez-vous-en à Sainte Rita ». Et elle m'a dit plus loin « Vous allez changer de job ». Alors, j'ai dit « Ben non, je travaille à la poste, je ne vais pas changer de job, enfin je ne vois pas trop ». Et le fait est que quelques jours plus tard, j'apprends qu'il y a une réorganisation à la poste et que je change de direction. Et donc je me retrouve dans le 15e, et le jour où j'arrive pour me garer dans cette nouvelle direction, je me gare en face de la chapelle Sainte Rita, bon, qui est la fausse chapelle, parce que la chapelle Sainte Rita, en réalité, elle est à Clichy. Bon, je ne vais pas rentrer dans cette polémique-là, mais j'ai découvert Sainte Rita à cette occasion. Et c'est Sainte Rita qui m'a fait découvrir la spiritualité. Alors j'ai beaucoup, je suis finalement rentrée dans la chapelle de la chapelle Sainte Rita catholique à Clichy. J'ai beaucoup échangé avec le prêtre à l'époque, et c'est là que je me suis documentée sur la spiritualité. Donc la spiritualité, c'est la religion, c'est le mysticisme, c'est l'ésotérisme, c'est tout ça en fait. Et ça m'a complètement délivré, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de moyens à ma disposition pour trouver me raccrocher à quelque chose qui correspond à une foi, qui n'est pas la foi religieuse.
Tu vois ce que je... T'as de la chance. T'as une amie au ciel, Rita. La Sainte Rita, on aurait dû faire cette émission le 22 mai, là, parce que c'est le jour de sa fête. C'est beau parce qu'elle est fêtée dans toutes les églises, et ce jour-là, on offre des roses aux fidèles qui viennent prier Sainte Rita. C'est la sainte des causes. On dit que c'est la sainte des causes désespérées.
Ben, juste, je fais une petite parenthèse.
D'ésotérisme.
Elle est morte le 22 mai. Sainte Rita, elle est morte le 22 mai. Et la personne dont je voulais retracer le parcours, qui a été donc assassinée par son père, est morte le 22 mai.
Ah oui.
Par exemple.
Ouais, ouais.
Alors, donc, pardon, moi, je t'ai coupé.
J'appelle ça des signes, en fait. Ouais, des signes où la providence éclaire un peu comme ça des situations, et ça aide à se repérer un peu sur le chemin. Mais quand tu parles de spiritualité, tu sais, on parle aussi, tu as entendu ça, de spiritualité laïque aujourd'hui. Et alors, est-ce que la spiritualité, c'est la religion? Est-ce que la religion, c'est la spiritualité? Moi, je ne suis pas un grand sachant, mais ce que j'ai aimé, c'est le jour où j'ai entendu que religion, ça venait de la racine religare, qui veut dire relier. Et moi, ce qui a changé ma vie, c'est le jour où j'ai compris que dans ma foi, j'étais relié non pas à une théorie, à une philosophie, mais à une personne. Et parce que dans la foi chrétienne, Dieu, il s'est incarné, c'est l'enfant Jésus de la crèche, le petit Jésus, comme on dit. Et bon, c'est un mystère, hein, mais c'est une personne. Et ça, c'est ce qui a changé ma vie quand je me suis j'ai pris conscience, mais c'est une grâce que j'ai reçue. C'est une rencontre que j'ai faite, en fait, la plus belle des rencontres de ma vie, que j'étais aimé inconditionnellement, que j'avais été désiré de toute éternité, et que ce Dieu-là, c'était un compagnon de ma vie, en fait, fidèle, qui me laisse... qui ne me laisserait jamais tomber et qui me soutenait toujours, quoi. Et bon, ben, j'ai lu « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette phrase, quoi ? « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et j'y ai cru. Et j'y crois encore. C'est un mystère, mais c'est dans mon cœur.
Eh bien, pour ma part, je suis... J'écoute, j'ai beaucoup écouté, un peu moins, mais quand même, Sainte Rita, et je ne suis pas la seule, on a le temps de passer une dernière musique, on va écouter Sainte Rita, de Benjamin Biolay, et pourquoi pas ?
Super !
C'est le vent du nord, du sable plein. J'ai fait tant d'efforts, mais échoué de peu. Au loin la clameur de vacanciers heureux, un séquencier de bleu, de bleu. C'est le vent du nord, celui qui vient des terres. Je sors du creux, j'ai joué de peu, de peu. Rita sainte, priez pour nous, noire absinthe, que votre sang coule en nos cours. Rita sainte.
Cher Philippe, toujours parmi nous, toujours en ligne.
Oui, merci. Merci pour cette séquence musicale.
Alors, pendant cette séquence musicale, j'ai tiré une carte parce que la voyante que j'avais été voir m'avait dit, donc pour reconstruire ma vie à ce moment-là, de prier aussi Allan Kardec, enfin d'aller au Père Lachaise, déposer ma main sur la tombe d'Allan Kardec, le père du spiritisme, qui m'a souvent connecté avec les morts parce que quand même, je me rends compte que je vis beaucoup avec les morts. Et comme cette émission est plus ou moins sponsorisée par les éditions Très Daniel, et d'ailleurs une autre à venir avec Très Daniel, qui me correspond assez bien, parce que le développement personnel, le spiritisme et toutes ces choses-là, la spiritualité, c'est quand même leur ligne éditoriale. Donc j'ai reçu l'oracle d'Allan Kardec et j'ai tiré une carte qui nous correspond assez, Philippe, puisque c'est la carte des salons, donc j'ai tiré complètement au hasard. Et on voit sur cette carte Allan Kardec et son épouse dans un salon parisien où ils étaient fréquemment entourés d'intellectuels et d'artistes de l'époque, où les discussions sur le spiritisme et la philosophie étaient au centre des conversations, un peu comme notre salon littéraire, notre salon radiophonique. Finalement, alors, cette carte, elle signifie quoi ? Les salons parisiens étaient des lieux incontournables de la vie mondaine et intellectuelle. Ils offraient un espace où les artistes, les écrivains, les penseurs se réunissaient pour discuter des dernières tendances artistiques, littéraires, philosophiques. Pour Allan Kardec, ces salons ont été des occasions de présenter ses idées sur le spiritisme à un public curieux et ouvert aux nouvelles idées. Les salons invitent à réfléchir sur l'importance des échanges intellectuels et sociaux dans la diffusion des idées. Ils encouragent à avoir les lieux de rencontre comme des occasions de croissance personnelle et de développement des connaissances. Alors, pour terminer, cette carte rappelle que même dans les moments de distraction mondaine, il est possible de trouver des opportunités pour partager et enrichir ses pensées. Alors même dans ces univers mondains qu'on a connus tous les deux, il était possible... Mais tu vois, finalement, la vie nous a éloignés pendant 30 ans, c'est ce que je disais tout à l'heure, et elle nous a remis en contact il y a 5 ans ou 6 ans, et on a des chemins qui sont à nouveau à peu près semblables, enfin en tout cas une grosse remise en question et une quête de sens qui n'en finit pas.
Oui.
N'est-ce pas? Non, ça te laisse perplexe ou...
Oui, non, mais je suis d'accord. Une quête de sens qui n'en finit pas. Le sens étant, on peut le lire de deux façons, hein, la direction et la signification, enfin le sens dans le sens de la signification. Je suis un petit peu dérouté et un petit peu mal à l'aise par rapport au spiritisme. Parce que, bon, c'est pas tout à fait, même pas du tout
ta cam,
dans la foi chrétienne. mais je respecte, et c'est vrai que on est tous animés d'un esprit, et comme tu dis, d'une recherche, d'une quête de soi, et c'est par ça qu'on s'est retrouvés. Alors que c'était pas du tout de ça dont on parlait quand on travaillait ensemble dans les bureaux à Cannes.
Non, clairement pas.
On n'était pas éveillés à ces questions-là, quoi.
On parlait plutôt bélaise, champagne et soirée et boîte de nuit.
Voilà, ouais. Mais bon, en même temps, moi, comme toi, j'ai pas de regrets non plus. C'était une période exaltante où j'ai beaucoup appris et curieusement, après, dans les choix que j'ai faits par la suite et ce que je suis devenu et que je deviens encore aujourd'hui, parce que c'est un processus qui ne finit jamais, mais j'ai retrouvé aussi des compétences que j'avais, je ne sais pas si pour toi c'est comme ça aussi, mais dans cette vie, dans ces fonctions que j'avais à 30 ans, j'ai pu les redéployer autrement 30 ans après, comme par exemple parler en public, et quelque chose que j'ai toujours fait. Ben, je l'ai fait en président des funérailles, des célébrations d'obsèques. Je me dis, tiens, ça c'est curieux que j'oriente comme ça une compétence différemment.
Mais alors, c'est exactement l'objet de l'élucubration numéro 2, je crois, donc où John de PromoGolf Paris était, enfin, mon patron dans le golf à Paris était invité. Parce que quand j'ai été recrutée donc, dans cette société, je ne savais rien faire. Donc j'avais un bac, je n'avais aucune ambition, je savais ni intention, ni rien. J'ai été recrutée là-dedans et je ne savais rien faire. Je ne savais pas téléphoner, je ne savais pas écrire un courrier. C'était la cata. Et le grand patron voulait absolument me virer. Il avait dit à John, cette fille est nulle, c'est une imposture, tu la vires. Et John lui a dit, non, Lionel, laisse-moi un mois, elle a un potentiel. Et pendant ce mois-là, j'ai pris le combi Volkswagen, je suis allée toute seule organiser mes premiers tournois de golf. Et je me souviens, alors, mettre les banderoles, tout ce qui est technique, bon, ça passe. Mais quand il s'est agi d'installer le micro pour la remise des prix et de faire ma première remise des prix au micro toute seule devant le grand patron de Fred Joyer, le sponsor, ou je ne sais plus quel sponsor incroyable on avait, eh ben, c'était pas gagné, quoi. C'était pas gagné, mais je l'ai fait. Et aujourd'hui, c'est la radio.
C'est la vrai. Radio. Le salon radiophonique.
Merci, Philippe, de nos échanges. C'est court, une heure. Hein.
Merci. C'est court, une heure, ouais, on aurait pu continuer. Ouais. Mais merci pour cette profondeur, cette authenticité, là. C'est rare, en fait, des conversations à bâton rompu comme ça, où on peut vraiment échanger. J'aime beaucoup aussi la radio, moi. Donc, merci pour votre invitation.
Ben, merci d'avoir accepté et d'avoir été disponible. On pourra peut-être reconduire ultérieurement sur des ruptures de personnes. Enfin, les deuils, là. Les deuils, c'est tout. On verra ce qu'il est possible de faire. En attendant, eh bien, chers auditeurs, c'est fini pour ce soir. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dimanche 3 mai à 21h dans les Élucubrations d'Hermeline sur 101.1 FM. Et vous, quel est votre souvenir vintage? Eh bien, à partir du souvenir vintage que je tais pour le moment, un peu de suspense, on parlera d'éloquence avec l'association Eloquentia Brest. L'émission est en écoute et en réécoute sur www.radio-u.org dès demain après-midi sur le site et en streaming sur et en podcast sur toutes les plateformes de streaming et sur ma chaîne YouTube et un peu partout, quoi. Philippe, merci. Philippe Lemoine, donc pour ceux qui voudraient te contacter pour un conseil, un accompagnement sur une rupture, un deuil, un numéro de téléphone, une adresse.
Numéro de téléphone, oui. 06 75 35 25 02.
Très bien. J'espère que les auditeurs ont pu noter. Je vais peut-être le répéter. Ou tu veux peut-être le répéter une deuxième fois, on ne sait jamais. On n'est jamais trop prudent.
Ah oui, parce qu'on est en direct.
Ouais.
06 75 35 25 02. Merci.
Merci et bye bye.
Bye bye.
Les élucubrations d'Hermeline sur Radio U 101.1 FM.